les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Aurélie Malka.
Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire. Nous sommes ici présents pour fêter notre dernière émission de 2013. Je profite pour saluer à tous nos auditeurs qui continuent à nous écouter ou à nous supporter. Et pour finir cette année 2013, j'ai invité Aurélie Malka, une jeune mezzo-soprano, qui est aussi chargée de production de l'orchestre Les Passions, l'orchestre baroque dirigé par Jean-Marc Andrieux. Et je veux faire un petit résumé de son CV parce qu'elle a un parcours vraiment atypique, Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour Rosendo.
Donc on pourrait dire qu'elle a deux casquettes. Une, c'est le chant lyrique, mais avec un peu de parcours traditionnel, un chant traditionnel qu'il va vous expliquer, que tout va nous expliquer tout à l'heure, et chargé de production de l'orchestre baroque à Montauban. Et pourquoi je disais que c'était un parcours aussi dans ta vie qui est assez riche, parce que tu, à 18 ans, tu es parti au Chili, tu es allé à Togo, au Maroc, tu as fait une formation à Toulouse, enfin, c'est comme un parcours baroque aussi, qui foisonne un peu avec tous ces notes musicales et tous ces décors foisonnants et très chargés. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Cette présentation un peu
baroque.
Oui,
en effet, bon, je pense que maintenant ça se fait de plus en plus d'avoir des parcours comme ça variés à l'international. C'est un petit peu dans l'esprit du temps, mais c'est vrai que quand je l'ai fait, c'était un peu pionnier. Bon, voilà, à 18 ans, j'ai voulu partir, je voulais absolument partir en Afrique. Voilà, c'est trouvé que c'était le Togo, mais je rêvais d'Afrique noire. Donc voilà, c'est vrai que ça a été assez. J'ai dû faire comprendre à mes parents que ma vie elle allait se faire par monts et par veaux. Au début, je voulais absolument découvrir plein de pays, et j'ai bien fait de le faire. Tant que c'était encore temps, quand j'étais étudiante, et puis parce que maintenant, bon voilà, je travaille et c'est un peu plus difficile. Donc voilà, je suis très contente, mais effectivement, c'est un côté baroque, oui, comme tu le dis.
Et donc, tu avais 18 ans quand tu es partie de tes parents?
Voilà, je suis partie, oui, pour faire un chantier bénévole au Togo, voilà. Mm-hmm.
Et quand tu nous as manifesté que ces départs, j'ai cru ressentir que ces départs étaient un peu difficiles pour tes parents parce que, je ne sais pas, ton regard, il a été un peu ému en disant, bon, il fallait faire comprendre à mes parents qu'il fallait que je prenne cette route.
Oui, oui. Moi, je suis fille unique en plus et voilà, bon, mon père est tempérament anxieux, donc il ne voulait pas que j'aille là-bas, mais bon, j'avais quand même le soutien d'autres personnes, mais c'est une façon de s'affirmer comme une autre et ça s'est très bien passé. Au final, j'en suis ressortie très enrichie, donc ils ont été très contents pour moi.
Oui, maintenant que la mobilité internationale est assez fluide et assez répandue ou démocratisée, beaucoup de jeunes veulent aussi partir loin. Quel conseil tu pourrais lui donner à quelqu'un qui doit rassurer ses parents, qui sont anxieux de voir partir leur enfant unique et pour qu'il soit tranquille?
Mais il faut avoir confiance en la vie, je pense. C'est le destin de chacun. C'est surtout, il faut voir l'enfant comment il est. S'il a vraiment, c'est un besoin. Le besoin doit être assouvi, parce que si c'est pas maintenant, ça sera fait à un autre moment ou d'une autre façon qui sera finalement mauvaise. Il faut pas frustrer un désir comme ça qui est vital en fait. Donc il faut bien repérer chez l'enfant si c'est vital ou si c'est juste comme ça une lubie. Pour faire comme un copain ou voilà, moi c'était vraiment vital, donc ça pouvait pas être autrement.
Donc ils ont vu sûrement une conviction dans dans ta démarche qui on pouvait pas que s'incliner. En plus tu avais la majorité d'âge, non, quand tu es parti?
Non, j'avais
tout à fait.
J'avais un petit peu moins de 18 ans. Ah. Non mais c'est bon. Et puis bon, c'était un projet, c'est-à-dire ce qui est important aussi, c'est d'avoir un but quand on s'en va. Moi, j'ai jamais voulu voyager pour voyager, c'est très bien aussi, mais je voulais vivre des projets de groupe, des projets associatifs, me rendre utile. Donc, ce que j'ai fait ça aussi en Turquie, en Sicile, voilà, c'est des projets comme ça où on est avec d'autres jeunes et puis on fait des on est réunis par un même objectif et du coup c'est très bien encadré. Ça limite quand même les risques d'égarement.
Et cet égarement des tourisme industriel qu'on perçoit maintenant, que les communications, les transports sont plus faciles. Comment tu te positionnes vis-à-vis de cette espèce de collectionner des visites qui ne sont pas du tout avec un sens, qui ne sont pas du tout avec un objectif de vie ou un objectif de partage, mais plutôt d'accumulation de prises de vue et une manière de montrer qu'on a un statut de voyageur plutôt que d'une véritable et intégration avec le lieu où on va. Il me semble, j'ai l'impression que de plus en plus, on a ce type de voyage.
Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai rencontré des gens comme ça qui avaient le guide, là, des guides Lonely Planet. Ils faisaient l'Europe entière. C'est-à-dire que dans un guide, ils faisaient l'Europe. Ils avaient, je crois, 10 jours pour faire le tour de l'Europe. Alors que nous, on était installés là avec une amie en Roumanie. Notre but, c'était d'aller de village en village. Et c'était vraiment aberrant de voir ça parce qu'ils parlaient entre eux de ce qu'ils avaient fait. Finalement, ils parlaient pas de rencontres ni de contenu très profond. C'était très superficiel. Ils passaient de capital en capital. Et moi, je pense un des meilleurs moyens d'intégration, quand on est comme ça à l'étranger, c'est la langue. Et moi, j'adore la langue. J'adore étudier les langues. Enfin, étudier ou voilà. Même des fois, c'est pas étudié, c'est naturellement qu'on l'apprend quand on s'intéresse et qu'on essaie de retenir un petit peu les mots. Donc, je pense déjà, si on n'essaie pas de se renseigner sur la langue, d'apprendre un petit peu, l'intégration, elle n'est pas possible. Et du coup, le voyage, ça reste de la visite, voilà. Donc, moi, en tout cas, enfin, personnellement, après, il y a d'autres façons, mais ça a été en premier la langue, pouvoir m'exprimer et pouvoir comprendre. En un minimum de temps, puisque c'est vrai qu'à chaque fois c'était pas forcément long, c'était entre plusieurs semaines et plusieurs mois, mais j'ai retenu toujours des voilà.
Il y a une chanson de variété italienne. Le nom de l'interprète il va me revenir, mais c'est la phrase que j'avais retenue justement par rapport à ce que tu dis, Aurélie. C'est aimer quelqu'un, c'est comprendre sa langue. Imparare la langue di l'altri, non? Donc, je trouve que c'est très beau, parce que si on se met pas dans les mêmes accords.
C'est se mettre au diapason.
Au diapason.
Ça me fait penser à ça, voilà, à la musique.
Oui. Puisqu'on est sur la musique, alors comment c'est venu pour toi? Eh bien, je vois que dans ton parcours de diplôme et de formation, tu étais toujours dans des projets culturels, tu as eu en charge des projets, des expositions, des cinémas, des stages dans différentes manifestations culturelles de la France et de l'étranger. Et donc, tu étais déjà sensibilisé à cette ambiance culturelle. Comment est née? Tu étais déjà toute petite inclinée par cette voie?
Non, en fait, j'ai toujours été petite, on va dire, baignée dans le climat culturel musical, non pas parce que mes parents étaient musiciens, juste mon père est mélomane, mais sinon ils n'étaient pas du tout musiciens. J'avais quand même des personnes dans la famille qui l'étaient. Du coup, je baignais dans la musique, ça, d'accord. Mais après, au niveau de mes études, c'est vrai que j'ai pendant très longtemps pas trop su quoi faire. C'est pour ça que je me suis dirigée vers les sciences politiques, parce que c'est des études qui restent très générales. Je me suis dit, je veux pas m'enfermer dans quelque chose de particulier. Et ce n'est que qu'au milieu de mon parcours en sciences politiques, je me suis dit, mais comment réunir ma passion qui est la musique. J'avais aussi d'autres attirances culturelles, et pas que la musique, mais la culture de manière générale. Comment allier la culture avec mon travail, puisque finalement ça va être mon quotidien et je voulais pas m'éloigner de ça en travaillant. Et c'est là que j'ai vu qu'il était possible de travailler dans la culture. C'est vrai que maintenant ça semble évident, mais avant, il y a des métiers comme ça, on n'imaginait pas trop qu'ils existaient. Chargé de production, les gens ne savent pas trop ce que c'est. même encore maintenant. Mais c'est vrai qu'à présent, il existe des écoles spécialisées dans la culture, même Subdeco à Toulouse, donc une école de commerce à sa branche culturelle. Voilà, ce qui n'existait pas avant. Donc, sciences politiques, ça m'a permis de rester large. Et après, je me suis spécialisée donc qu'à la fin. Donc, c'était l'équivalent d'ESS Master, là où j'ai suis allée à Montpellier.
Direction artistique, des projets culturels.
Mais ce n'est que là, vraiment, que j'ai su ce que je voulais faire. Donc, à partir du moment où j'avais ça en tête, j'ai multiplié les expériences dans les associations, comme tu dis. Voilà, j'ai essayé vraiment d'être sur le terrain pour que ça se passe au mieux après dans les études et être sûr que c'était bien ça que je voulais faire.
Et puisqu'on parle des partages, je vais te partager une petite expérience que j'ai eue aussi dans mon enfance, parce que moi, je dessinais, je peins comme tout enfant, hein, mais je n'avais pas envisagé que ceci serait ma passion ou ma maladie perpétuelle, hein, parce que je suis bien avec ce virus artistique. Mais quand on est à l'école ou au collège, on m'a demandé, bon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu sois grand? Mais je lui dis, pourquoi? D'une manière naïve, je répondais, mais pourquoi il faut être grand? Moi, je suis déjà dessinateur. Mais je pense que dans cette réponse, il y avait un peu de prétention, mais surtout d'ignorance et de naïveté, parce que à cette époque-là, je ne me posais pas la question si j'allais vivre de ça. Simplement, je disais, je suis déjà dessinateur. Je dessinais pas très bien, mais les dessins étaient pour moi tellement importants que je n'envisageais rien d'autre. Mais avec les parcours du collège, du lycée, alors là, on commence à se cadrer ou à être influencé, soit par la famille ou par la société, qu'il faut prendre un parcours raisonnable. Donc, j'ai pris pendant 3 ans un parcours scientifique, mais finalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire plaisir à ma famille en faisant ce type d'activité. Là, ça m'a servi beaucoup, hein. Mais c'est pour te dire comment parfois la naïveté de croire que l'art peut nous faire vivre se rejoint avec l'effet qu'effectivement l'art peut nous faire vivre.
Oui.
Et c'est notre avis.
Ah ouais. Mais c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure pour les voyages, c'est que c'était un besoin vital pour toi donc de dessiner, ça ne pouvait pas être autrement. Donc quand ça ne peut pas être autrement, il faut le faire, il faut suivre. Parce que bon, tu as essayé de faire autre chose, mais finalement tu es revenu à ton point de départ. Et c'est ça que les parents doivent comprendre aussi, je pense. Voilà, quand ça doit être, ça y est, puis ça se passe bien après. Voilà, donc nous venons d'écouter un extrait d'un motet de Porpora, De Profundis, donc interprété par Isabelle Poulnard, qui est soprano, et accompagnée de l'orchestre Les Passions, donc l'orchestre baroque de Montauban, pour lequel je suis la chargée de production. Donc c'est un extrait que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parmi notre riche discographie. Porpora, donc non a priori peu connu du public, disons que Vivaldi est plus connu, même si c'est un petit peu la même époque. Ils avaient un petit peu le même rôle, c'est-à-dire qu'ils c'était des compositeurs au sein des hospitaliers où il y avait des jeunes filles orphelines à l'époque qui passaient leur temps à pratiquer la musique et donc qui étaient des virtuoses. Et voilà, j'aime beaucoup ces écritures parce que c'est très vocalisant. Et donc on a pu écouter là un extrait.
Voilà. Je suis content, Aurélie, que tu puisses présenter cet extrait de Porpora. Moi, particulièrement, je suis très attaché aussi à la musique baroque, non seulement parce que j'assiste souvent à vos répétitions et je confesse préférer les répétitions au concert.
Oui.
Je te dirai après pourquoi. Mais la musique baroque, pour moi, était toujours un élément clé dans ma formation, surtout les suites de Bach. Parce que quand je me suis intéressé à faire conquête, les tableaux qui se trouvent actuellement au conservatoire, et j'ai dû me documenter pour la musique qu'ils ont écoutée à ce moment-là, c'est les 15e et 16e siècle. Donc, et les Espagnols ont amené au Pérou la musique baroque, et à l'époque où il y a eu la conquête, donc c'était toute cette musique baroque qui imprégnait l'esprit des franciscains ou des dominicains qui étaient là-bas et aussi de la colonie espagnole. Bien, excusez-moi, je parle un peu trop de moi, c'est toi l'invité, c'est pas moi. Et donc, puisque tu as parlé à l'époque de la musique baroque, Porpora, et comment ça s'est fait que tu as commencé en 2005, comment est-ce que tu t'es décidé à devenir mezzo-soprano?
On ne décide pas de devenir mezzo-soprano, ça se révèle un peu tout seul. Suite à quelques cours, voilà, le professeur donc te dit quelle tessiture tu as, hein, puisqu'on est avec la voix qu'on a. Et donc, en fait, c'est vrai qu'avant j'ai commencé avec le chant traditionnel. Là, on parle pas de mezzo-soprano, dit de soprano. C'est voilà, on est dans une autre interprétation. Mais donc, je suis rentrée en 2005 au conservatoire pour travailler pour les passions. Et comme les passions sont en résidence au conservatoire, notre bureau est là-bas. Du coup, ça coïncidait au mois de septembre avec les tests d'entrée. Et donc, j'avais toujours voulu faire du chant lyrique. Et donc, j'ai passé le test d'entrée au conservatoire de Montauban. Et donc, j'ai eu la chance d'être prise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours de chant donc régulièrement, de chant lyrique.
Comment ça se présente les chants traditionnels? Excuse-moi, mais je suis ignare là-dessus. Comment tu pourras me donner une petite présentation?
Oui, alors chant traditionnel, bon, c'est très très varié. Disons que moi, j'étais dans une chorale de chants du monde. Donc, on abordait vraiment du répertoire du monde entier, des chants... vraiment de partout, donc ça peut être... Après, bon, je me suis spécialisée aussi par des petits stages, des chants des Balkans, des polyphonies de Lombardie, enfin, ça peut être très précis, de chants auvergnat, bon, du chant, je fais un peu de chant occitan.
Mais ça date des 18e, 19e, comment ça s'est dit?
Non, c'était des musiques, vraiment, c'était un héritage très ancien, comme ça, qui a perduré, voilà. Mais il y a des musiques traditionnelles qui sont, en fait, encore... actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des pays où la musique d'aujourd'hui, c'est aussi c'est la musique traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est encore en perpétuelle écriture. Alors que pour nous, ça y est, c'est un petit peu figé, c'est du passé. Et en Europe de l'Est, par exemple, elle est encore vivante. Voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est un terme un petit peu multiple.
Oui. Donc, après ces parcours des chants traditionnels, tu es passé au cours.
Voilà, c'est-à-dire que la technique, ça permet. Je voulais acquérir de la technique pour pouvoir exprimer davantage, que ce soit dans n'importe quel style de chant. J'ai voulu faire du chant lyrique, bon aussi parce que le répertoire est magnifique. C'est vrai que le répertoire baroque, bon que j'ignorais un petit peu avant, mais maintenant que je connais ça, je suis dedans et j'adore ça.
Oui, pour donc, chargé des productions, dis donc.
Je me plais beaucoup à chanter le répertoire baroque. Voilà, et puis bon, c'est vrai que par la formation est très très complète au conservatoire, puisqu'on on est un petit peu obligé d'interpréter tous les styles jusqu'au contemporain. Donc on balaye vraiment tous les répertoires vocaux.
Je pense que c'est nécessaire, non?
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme si on étudiait qu'une matière en étant à l'école, donc c'est pas possible.
Et donc parmi ces parcours, parmi ces différents compositeurs, c'est Porpora qui t'a intéressé. Pourquoi?
Ah là, Porpora, bon, parce que c'est un disque qu'on a enregistré, qui est un petit peu en dehors des sentiers battus, quand même, je trouve. J'aurais pu aussi choisir Charpentier ou d'autres, mais bon, voilà, Porpora, parce que je m'y retrouve, parce que c'était un peu un chef de chant. J'aime beaucoup la façon dont c'était écrit, et voilà. Et là, c'était très bien interprété par Isabelle Poulnard. C'est aussi une soprano que j'admire beaucoup, avec laquelle on a la chance de travailler, qui est très, enfin, connue et célèbre dans le milieu baroque.
Et comment tu t'es réparti entre l'éducation de ta voix, le perfectionnement de ton chant et les activités de l'orchestre baroque, les passions? Parce que l'un et l'autre parfois sont pas compatibles, non? Ya soit par les horaires ou pour les questions administratives que ça implique. D'un côté, tu es dans une activité artistique, et dans l'autre, c'est plutôt gestionnaire.
Oui, enfin ça c'est pas gênant, c'est comme n'importe qui aurait son métier et puis son activité en dehors, donc ça pose aucun problème évidemment. Après non, c'est une chance, comme je suis au conservatoire justement au niveau des horaires, c'est très très souple puisque je suis sur place, donc j'ai qu'à traverser le couloir pour aller prendre mon cours de chant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc ça j'ai beaucoup de chance. Après, je dirais même que les deux se complètent, c'est-à-dire que donc dans mon travail j'assiste aux répétitions et là j'assiste vraiment aux commentaires des chanteurs, je peux discuter avec eux. Hein. Et du coup, je peux dire que ça ne fait qu'enrichir les cours de chant, donc ça se complète très bien. Oui.
Ah, mais c'est très, très bien, c'est une chance, parce que tu nages, au fait, dans ce que tu étudies et tu lis, et c'est très bien. Ouais. Mais alors, comment s'est arrivée l'aventure? Comment tu es arrivé aux passions? Tu as passé un concours? Comment tu
alors,
es.
Ça s'est trouvé que j'étais. Avant, donc c'est mon premier emploi, un véritable emploi. Donc j'ai fini mes études. Après, je suis partie faire une année au Maroc. C'est un programme qui était de l'AFA, jeune professionnel de la culture. Donc je travaillais là-bas. Et puis quand ma mission est arrivée à son terme, j'allais chercher donc du travail. Ils m'ont proposé de rester là-bas. Donc j'étais encore sur le point d'hésiter. Et puis il y a un festival de musique sacrée à Fès qui est très très célèbre. Et donc on a reçu un groupe français qui s'appelle Aïssa et Voce. Et je me suis dit, tiens, je vais m'occuper d'eux, ils vont arriver, je vais m'occuper de les recevoir, de les driver un petit peu, voilà. Et j'ai bien fait de faire ça, puisque là-dedans, dans l'équipe, il y avait un des chanteurs qui est donc très proche des passions, puisqu'il chante encore avec nous, qui m'a dit, tiens, je sais qu'à Montauban, les passions cherchent une chargée de production. Je dis, mais écoute, quand tu rentres en France, merci de me faire passer le profil de poste pour que je regarde ça de plus près. Et puis, donc du Maroc, en fait, j'ai postulé à cette offre d'emploi. Et dès que
à ce moment-là, c'était Laetitia qui était...
Laetitia est administratrice. Ils avaient besoin, en fait, l'orchestre se développant, elle ne pouvait plus assumer toutes les fonctions. Oui. Ils avaient besoin d'une chargée de production, justement pour la délester, parce qu'on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Donc j'ai postulé de là-bas. Et puis, j'étais, on va dire, présélectionnée pour les entretiens. Et je suis vite rentrée, deux jours après, c'était le 14 juillet, donc voilà. Et donc, je suis rentrée. Et puis, le lendemain, je crois, j'ai eu l'entretien. Et puis, voilà, quelques jours après, j'ai su que j'avais été prise. Du coup, j'ai dit que, bon, Maroc, ben, j'allais pas y retourner pour travailler. Et donc, finalement, je suis très contente. Bon, parce que je suis quand même toulousaine à la base. Et donc, je reste près de mon territoire.
Tu te souviens exactement de ces 14 juillet quand tu as passé ton entretien?
Non, mais c'était pas, 14 juillet, c'était pas l'entretien, c'était juste après. Mais disons que je veux dire que j'ai vraiment enchaîné mon retour du Maroc avec mon entretien.
Oui.
Je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'était, je pensais pas du tout être postulé à ce genre de poste-là. Enfin, voilà, je suis tombée dans le milieu baroque donc je connaissais pas trop. Et puis l'équipe était très sympathique Et voilà, ce qu'il craignait un petit peu quand il m'a embauché, c'est que je continue d'avoir envie d'avoir la bougeotte et d'avoir envie de repartir par Mons et Parvaux. Et ils se sont dit, bon, on la prend, on va la former, mais après, elle va encore vouloir partir à l'autre bout du monde. Et je leur ai dit, ils m'ont cru, heureusement. Je leur ai dit, non, justement, si j'ai fait ça avant, c'était parce que je savais que c'était le moment, mais maintenant, je veux passer à quelque chose de plus stable et construire quelque chose de plus pérenne. Et donc bon, ça a commencé avec un CDD, puisqu'à l'époque l'orchestre ne savait pas s'il pouvait encore continuer, et puis finalement ça s'est transformé par un CDI, et donc ça fait maintenant ma 8e année, si je compte bien, c'est ça. Voilà.
Ah, mais dis donc, mais est-ce que la jeunesse n'était pas pour toi quelque chose qui pourrait être un frein? Je veux dire, plutôt pour eux, le fait que tu sois jeune, ça n'en mettait pas ton stress de dire, est-ce qu'ils vont m'accepter parce que je suis trop jeune là?
Oui, c'est vrai que j'avais pas l'expérience du travail, j'avais des expériences associatives, mais donc sans les responsabilités qu'on a quand on a vraiment un poste. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance, et ça, je les remercie. Après, bon, c'est plus que de la confiance, c'était surtout de la formation. C'est que Laetitia Cardon m'a beaucoup assistée, beaucoup aidée au début, parce que la première année, c'est pas évident. C'est-à-dire, comme c'est un travail de terrain, c'est pas des choses qu'on apprend. On a beau faire toutes les formations possibles, il faut de la pratique, de l'expérience. Voilà, c'est pas un poste qu'on peut prendre du jour au lendemain en étant efficace comme ça.
Mm-hmm. Pour revenir un petit peu à la question artistique, ton parcours en tant que mezzo soprano, sûrement tu as dû écouter Nathalie Ducey. Et les nouvelles orientations qu'il prend dans sa carrière. Et comment tu ressens le fait qu'une chanteuse aussi célèbre qu'elle, Nathalie Ducey, qui est maintenant va faire la chanson de variété? Et pour toi, c'est concevable qu'un artiste, une artiste comme elle qui a fait un parcours célèbre en tant que soprano, et du coup, il va chanter la variété? Et pourtant, c'est réconcevable de revenir au chant traditionnel ou à la chanson de variété après ton parcours des maisons.
Oui, je pense que c'est pas incompatible quand on aime chanter. Après, il faut se laisser guider par le répertoire qui nous fait plaisir. Et d'ailleurs, on écoutera un petit peu plus loin un extrait de... Roberto Alagna, donc juste je présente avant qu'on l'écoute, c'est puisque Roberto Alagna est donc un des plus grands ténors français et a souhaité revenir à ses racines en enregistrant un disque qui s'appelle Le Sicilien, donc à ses racines de Sicile. Voilà, c'est un exemple pour moi très très frappant, même s'il ne veut pas que ce soit de la musique traditionnelle, il veut pas l'appeler comme ça, mais à un moment donné, voilà, la boucle est bouclée, il a appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Sa technique, il a décidé de la mettre au profit de la valorisation d'un patrimoine musical sicilien qui était un petit peu oublié, qu'il a un peu exhumé. Voilà, c'est le parcours de chacun.
Cacci su, cinne quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinne quattro maccatetti, ni facemo che pisetti. Ti abballati, uomini schette maritati, essere abballati, buoni, non vi cante, non vi son. Abballati, uomini schette maritati, essere abballati, buoni, non vi cante, non vi sono. Uomini cacci su, cinque quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque quattro maccatelli, ni facemo che mi senti. Non vi cante, non vi so. Su, su, su,
On est toujours avec Aurélie Malka, chanteuse lyrique, mezzo-soprano, qui est chargée de production à l'Orchestre Baroque de Montauban. Et elle nous a choisi une peinture de Frida Kahlo, donc on va commenter. Et il s'agit de la peinture de 70 par 60 cm, huile sur toile, qui, dont le titre est « Les 30 amoureuses de l'univers, la Terre, moi, Diego et Monsieur Xolotl ». Bon, c'est une peinture dans le pur style surréaliste de Frida Kahlo, qui présente, se présente à elle-même en train de porter Diego, son mari, comme si c'était un bébé, il est nu. Derrière ses couples, il existe une représentation qui semble être une déesse mexicaine. Et tout en premier plan, il y a un chien noir. Et par-dessus, tout en avant-plan, se trouve les mains de cette déesse dont je viens de décrire. Tout ceci, il est agencé de manière assez fouillie, assez foisonnante, et avec un fond d'un ciel avec des couleurs chaudes, des couleurs froides, assez contrastées, assez violentes même. Et c'est donc la peinture « Les 30 amoureuses de l'univers » qui Aurélie a choisi pour cette séquence de l'émission, qui fait partie de son, du portrait d'Aurélie Malka à travers une œuvre d'art. Et Aurélie, comment tu as choisi ces tableaux?
Oui, ben c'est une œuvre, un tableau qui vraiment ne me laisse pas du tout indifférente. Son côté vraiment réaliste, on va dire. C'est vrai que je suis très peut-être terre à terre. J'aime beaucoup les choses qui parlent directement et qui sont vraies. Et je trouve dans les peintures de Frida Kahlo, c'est vraiment que du vrai parce qu'elle se peint à elle, elle peint sa souffrance. Donc voilà, pour ceux qui le savent pas, elle a eu la poliomyélite à 8 ans. Donc elle a eu beaucoup de problèmes de croissance et de problèmes de colonne vertébrale. Et il s'avère être une jeune fille très très brillante à l'école. Et finalement, elle a eu un accident de circulation. Voilà, ouais. Et donc elle a eu la colonne vertébrale, le bassin, les côtes brisées. Donc bon, c'était vraiment terrible.
Mais un bout de ferraille est traversé son corps.
Voilà, ouais. Donc, une très grosse souffrance, beaucoup d'immobilité, et finalement, dans son immobilité, elle a peint, et donc son meilleur sujet de peinture, c'était elle. Donc, il y a beaucoup de ses peintures qui sont vraiment insoutenables. C'est vrai que je n'arrive pas à les regarder, c'est vraiment très très difficile. Mais celle-là, je la trouve très très belle, je la trouve magique. Alors, elle est riche, comme tu dis, il y a beaucoup de choses dedans. Et elle fait référence vraiment aussi au Mexique, donc puisque Frida Kahlo est mexicaine. Il y a beaucoup d'éléments du Mexique. On retrouve les cactus, puis cette croyance comme ça, la déesse, la terre mère, la Pachamama, comme on dit. C'est vrai qu'au début, moi, ce tableau, je l'appelle la Pachamama, mais voilà, parce que c'est la terre mère.
Oui, c'est l'équivalent de la Pachamama au Pérou.
Ouais, voilà.
C'est une déesse mexicaine.
Ouais. Et donc, pour moi, tout est dit dans ce tableau. C'est-à-dire qu'il y a l'univers, à la fois la douleur. On voit, je crois qu'il y a du sang qui sort de sa poitrine, donc on voit sa douleur, et puis elle se tient droite, très droite, comme parce qu'elle avait un corset de fer, donc elle était toujours comme ça, un peu rigide. Son mari aussi qu'elle tient dans les bras parce qu'il représente le bébé qu'elle a pas pu avoir. Elle a fait beaucoup de fausses couches, elle voulait avoir un enfant, elle a jamais réussi. Mais en même temps, on voit que c'est la terre qui enfante, donc. Voilà, c'est un petit peu un mélange comme ça avec des où la terre-mère prend le dessus et finalement malgré la dureté de la vie, il y a aussi la fertilité qui est présente. On voit la sève qui sort de la terre-mère, donc le lait maternel, et puis cette présence de planètes aussi, un peu comme le côté du yin et du yang. Il y a toujours ces deux côtés, un peu bonheur, malheur finalement, qui sont présents.
Cette force expressive, et surtout cette émotion presque insoutenable, comme tu l'as dit tout à l'heure, Aurélie, dans les cas de Frida Kahlo, je pense qu'elle représente assez bien ce qu'elle avait dit de sa peinture. Elle disait, pour moi, la peinture, ce n'est pas un objet pour décorer, mais je peins ce que je vis et je vis ce que je peins. C'est-à-dire, pour elle, c'était comme une respiration, c'était partie prenante, partie fondamentale de son existence. Et donc, dans cette peinture, tu crois qu'on pourrait faire aussi un parallèle avec la musique? Par exemple, pour toi, la musique Est-ce que existe pour toi une musique qui sert à décorer, à faire un fond, et aussi une musique qui sert plutôt à vivre, qui est une espèce d'aliment?
Oui, c'est très intéressant comme question. Et en effet, peut-être, je sais pas, bon, ça c'est peut-être mon, voilà, la façon dont moi je ressens la musique. C'est vrai qu'il y a des musiques peut-être qui sont faciles d'écoute, qui sont belles, donc on se plaît à les écouter de la même manière qu'on se plairait à regarder un tableau joli entre guillemets. Et il y a des musiques dont un extrait que j'aimerais bien qu'on écoute un petit peu peut-être en suivant là, c'est donc Mystère des voix bulgares, où c'est justement dans la dissonance que se trouve la beauté, le sublime. C'est-à-dire ce qui a priori choquerait notre oreille, chatouillerait nos oreilles. Ben en fait finalement c'est ce qui rend la chose magnifique et qui fait qu'on arrive à une dimension supérieure.
Oui.
Parce que sinon quand c'est plat, on peut pas passer au-delà. Mm-hmm. Voilà.
On voit pas tout de suite, mais oui. Florian va nous préparer les mystères des voix bulgares tout à l'heure, oui, et tout de suite après notre échange. Donc dans ce rapport qu'on a avec l'art, qui est assez quand même émouvant et parfois j'entends dire et par mon entourage, cette peinture de Frida Kahlo est dégueulasse, cette peinture est vraiment trop violente pour moi, je ne peux pas la supporter, je ne peux pas la voir, je ne peux pas l'accrocher chez moi. Et toi-même tu as dit que parfois c'est insoutenable.
Celle-là je la trouve magnifique, je peux la regarder, il y a toujours de nouvelles choses à regarder dedans, mais par contre oui, les autres c'est vrai que c'est pas pour faire joli, on peut pas regarder. C'était exprimé là-dedans. Elle, ça lui était un moyen de peut-être d'évacuer certaines choses, en tout cas de témoigner d'une réalité.
Oui, voilà. C'est la manière. Je pense que la peinture, elle l'a sauvée. Il a continué à faire vivre.
C'est-à-dire qu'elle ne peignait pas pour vendre. Voilà aussi, c'est ça. Elle ne peignait pas pour plaire. Donc c'était un besoin qu'elle avait, mais c'était pas le besoin de plaire au public et d'essayer de rentrer en phase avec le public. C'est ça que j'aime beaucoup justement dans sa démarche.
Oui, c'est pour cela que parfois je me demande si tous ces publics qui va actuellement à l'exposition qui se trouve à l'Orangerie, et Diego et moi ou quelque chose avec Diego, son mari, et qui s'extasie devant des tableaux, je me demande s'ils les font vraiment parce qu'ils paraissent snobisme ou vraiment parce qu'ils s'extasient, parce que la beauté dans la peinture moderne, comme c'est son cas, ce n'est pas dans la représentation des formes, mais plutôt des concepts, de la manière comme l'émotion est vécue. Et Frida Kahlo réussit très bien à transmettre ses sentiments. Mm-hmm. Mais je pense qu'il ne faut pas rester sur des anciens carcans d'analyse, des compositions ou des harmonies, non. Là, c'est complètement différent.
Ouais.
Donc, on va écouter les mystères des voix bulgares. C'était de qui, Aurélie, les mystères des voix bulgares?
Mais en fait, ce sont des femmes, c'est un chœur, a priori a cappella, mais des fois, on peut entendre quelques instruments. Donc, ce sont des femmes qui ont été sélectionnées dans des villages des Balkans pour la clarté, la beauté de leur voix. Et ça, c'est un travail qui a été restitué par Marcel Cellier, si je me trompe, donc il devait, avec un rôle d'ethnomusicologue qui a un peu m'a remis un vieux répertoire au goût du jour.
Thank you.
Nous sommes toujours avec Aurélie Malka, qui, pour la séquence littéraire, partie de son portrait à travers un livre, elle nous a choisi le livre d'Ingrid Betancourt, dont le titre est, Aurélie ?
Même le silence a une fin.
Ah, oui. On est...
Extrait d'un poème de Pablo Neruda. Oui, donc j'ai choisi ce livre. Bon, pour moi, c'est un extraordinaire témoignage des 6 ans et demi de captivité d'Ingrid Betancourt, donc aux mains des FARC, donc des forces armées révolutionnaires colombiennes. Donc évidemment, je laisse de côté toutes les considérations politiques, les critiques qui ont pu être formulées à son égard. Bon, moi, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le livre et ce témoignage exceptionnel. Qui est dans ce livre. Et donc j'ai retenu juste une phrase comme ça, oui, même si chaque phrase est magnifique et pourrait faire l'objet d'une réflexion, parce que c'est vraiment très très bien écrit. Donc elle dit « Je vivais le présent dans l'éternité de la douleur, sans l'espoir d'une fin. » Donc on comprend vraiment à quel point c'était très très difficile. Et c'est un livre émouvant et qui laisse voir une femme de caractère, de courage. Il y a eu de multiples tentatives d'évasion. Il faut vraiment oser. C'était pas
six tentatives. Il y a chaque fois redoubler la violence envers non seulement envers elle, mais aussi envers toutes les captives.
Voilà. Et... Donc c'est vraiment un livre très très riche, mais surtout très bien écrit. Il y a un mélange d'introspection, d'analyse, mais à la fois de description, de périple. C'est palpitant. Quand on rentre dedans, on ne peut plus en sortir. Et en fait, je dis, c'est un livre qu'on pourrait pas arriver peut-être à lire avec autant d'aisance si on connaissait pas la fin, qui est quand même la libération. Sinon, ça serait trop difficile de lire ça. Et voilà, je remémore juste un petit passage, une scène où c'était l'anniversaire de sa fille, donc sa fille qui était en France. Et donc, pour cet anniversaire, elle a fêté avec les FARC, des jeunes FARC, puisqu'elle changeait selon les endroits, elle changeait de camp. Là, c'était des jeunes. Et tout d'un coup, c'est un peu comme si tout s'arrêtait, c'est-à-dire que les jeunes FARC n'étaient plus les méchants. Ils ont fait la fête, ils ont tous fait la fête. Elle a fait un gâteau, elle a demandé d'avoir un lecteur cassette pour mettre de la musique. Ils ont tous dansé ensemble. Bon, voilà, c'était très émouvant. Mais tout ça pour finalement finir à nouveau après avec de la violence terrible, mais voilà, pour dire de quoi, enfin, ce qu'elle pouvait être capable de faire.
De ce livre, je retiens une expression qu'elle avait dit par rapport à la liberté, non ? Mm-hmm. Et on pourrait t'enlever la liberté de te déplacer, la liberté d'aller même faire des besoins physiologiques, d'être attaché, mais parce qu'elle était même attachée au cou, à un arbre,
enchaîné.
Mais ce qu'on ne pourrait jamais t'enlever, c'est la liberté d'être, de décider qui tu vas être.
Ouais.
Donc là, je trouve que c'est très, très fort.
Oui. Puis c'est aussi un peu la résilience. En fait, c'est qu'est-ce qu'on va devenir avec ce qu'on nous a fait.
Oui, oui.
Et c'est vrai que parmi les autres personnes qui étaient avec elle, il y en a qui ont un petit peu cédé, ou il y en a une qui a eu un enfant avec un des FARC. Mm-hmm. Voilà, selon le caractère et... On ne prend pas le même parcours avec la même expérience.
Oui, tu as cité un mot-clé. Je crois que c'est Cyrulnik, non, qui parle de la résilience. Et pendant tes voyages que tu as fait en Amérique latine ou en Afrique, tu ne trouves pas que cette résilience se démultiplie, je veux dire, et il y a une dose de résilience qui est beaucoup plus forte qu'en France, étant donné que des tout petits, les enfants, ou même les adultes, sont confrontés à un changement, à une adversité qui fait de nous une espèce de résilience vivante pour pouvoir affronter ou se réaccommoder à tout cette adversité qui nous présente à la vie.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est très présent. Même en Roumanie aussi, je remarquais ça. Il y a comme un renouveau. Enfin, finalement, ils ont tellement connu de douleurs, donc que ce soit donc en Afrique, en Amérique du Sud aussi, après tous ces coups d'État. Bon, ils ont peut-être connu aussi tellement de difficultés qu'après, c'est un peu la respiration après l'oppression. Et du coup, ça se traduit par beaucoup de simplicité pour apprécier les bonnes choses. Et donc pour vivre pleinement, et alors que nous c'est un petit peu l'inverse, et on intellectualise beaucoup pour se rendre malheureux parfois.
Oui, mais je ne crois pas que ce soit l'intellect ou la réflexion. Je pense que c'est la cohabitation avec un état de consommation excessive qui endorme les réflexes de vie. Et du coup, ben, on est tellement habitué à cette superconsommation, à vouloir, soit dans l'amitié ou dans les objets, avoir tout de suite.
Tout à fait, c'est vrai.
Et de manière jetable, qu'on perd cette capacité de réadaptation qui nous exige la vie.
Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est, voilà. On se complaît dans un confort, finalement, qui nous a un peu été... qui dictait, finalement, qui correspond à des intérêts économiques. Mais alors, on croit être libre là-dedans, et en fait, on ne l'est pas du tout.
Ah non, non. Et du coup, ici, il y a les taux de déprimés, ou les taux des anxiolytiques, des consommations d'anxiolytiques, est beaucoup plus fort dans les pays développés que dans les pays qui sont, soi-disant, plus pauvres.
Bien sûr, parce qu'on nous montre, soi-disant, un rêve auquel il faudrait pouvoir accéder, et puis si on n'y arrive pas, pour ceux qui ont... Si on n'y arrive pas et si c'est ce qu'on souhaite et qu'on n'y arrive pas, on n'est pas bien. Alors que dans ces autres pays, bon, je crois que ça commence quand même vraiment à arriver. Hein. C'est vrai qu'ils ont malheureusement en Afrique, il y a le modèle de la France, en Amérique du Sud, c'est plutôt les États-Unis. Mais c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'ils ont une richesse dans la simplicité qui est en train de se perdre.
Oui, ouais. Oui. Je le constate aussi par ma famille ou par les amis avec lesquels je garde une communication américaine latine. Et tout change, tout se mondialise et tous ces vieux valeurs. Bon, là ici, je fais le rôle des vieux cons qui a de la nostalgie pour les anciennes valeurs. Mais il y a des choses quand même qu'on doit rester lucide, non? Vis-à-vis de l'échange, du don. On a fait une émission exclusivement dédiée à Noël, dédiée à cette période de fêtes de fin d'année, où les dons est simplement réservé à certaines dates institutionnalisées, exacerbées par la consommation, et non par cet échange des cadeaux, mais dans le sens plutôt des tissus sociaux, des renouveaux, d'échanges donnés, recevoir, redonner. Bon, ça c'est une autre discussion. Et je voudrais revenir à toi, Aurélie, à ton boulot de chargée de production à l'Orchestre des Passions.
Voilà, donc je vais peut-être un peu décrire ce que c'est être chargée de production, parce que c'est un terme qui parle peut-être pas trop à tout le monde. En fait, être chargée de production, c'est s'occuper de tout le côté non visible du concert. Parce que ce que vous voyez, vous, ce que vous entendez, ce sont les musiciens le soir du concert. Normalement, tout se passe bien. Et donc, moi, je fais en sorte que tout se passe bien et de gérer un petit peu tout l'avant. Donc, en fait, ça va du recrutement des musiciens jusqu'à l'accueil du public, en passant par l'aspect logistique et la communication. C'est-à-dire qu'une fois qu'on trouve une date, on trouve le programme, et selon le programme, on peut être entre 2, 3, 20, 40 musiciens. C'est très variable, on est un orchestre à géométrie variable, ce ne sont jamais les mêmes musiciens, puisque ce ne sont pas des permanents salariés, ça c'est pas possible actuellement, donc ce sont souvent des intermittents ou des professeurs qui dégagent du temps pour les concerts. Donc il y a un recrutement à faire.
La signature des contrats aussi.
Voilà, les contrats à établir. Voilà. Donc je m'occupe aussi maintenant de faire les contrats, les payes, donc comme une petite partie d'administratif. Et donc voilà, après, le travail, c'est être un peu la maman des musiciens. On me surnomme un peu comme ça, donc je le reprends. C'est-à-dire qu'en production, ce qu'on appelle en production, c'est-à-dire une fois que tout le monde est arrivé, que les répétitions commencent et que le concert approche, c'est pouvoir anticiper les attentes de chacun, et puis surtout répondre aux demandes, aux imprévus qui ont toujours lieu dans une production. Voilà, donc après il y a tout l'aspect communication, notre site internet aussi que je gère, là, qui est d'ailleurs... remis au goût du jour, il a été lancé cette semaine, donc vous pourrez aller sur www.les-passions.fr. Il est encore en bêta test parce qu'il vient juste d'être ouvert, donc il peut y avoir des dysfonctionnements. Donc merci d'être tolérant et de nous faire savoir s'il y a des choses qui ne conviennent pas encore. Et voilà, c'est un travail où on bouge beaucoup puisque on a un rayonnement local, régional, mais aussi national et international. Donc j'ai eu la chance en France, d'aller à Caen, Strasbourg, l'Essé, Lannion. À l'étranger, on est allé jouer à l'ambassade de France à Rome, au Palais Farnèse. On est allé aussi à Valence, en Espagne, à Saragosse, à Utrecht, aux Pays-Bas, et à Fès, au Maroc. Donc, voilà, c'est un orchestre qui bouge beaucoup et dans mon travail, je l'y suis.
Thank you. para salvar del amor. Tiene mi gluta bello preto para salvar del amor.
Voilà, nous venons d'écouter Amina Alaoui, qui est une chanteuse marocaine née à Fès, spécialiste du chant arabo-andalou. Et donc là, on entendait un chant donc de Grenade, un chant rare nati, donc qui est plus particulier. Ce chant, cette musique arabo-andalouse est née de métissage et de rencontres et qui ça rappelle vraiment c'est un témoignage de l'âge d'or en fait, hein, des moments de coexistence pacifique et de convivialité. Il s'agit d'un chant judéo-espagnol donc auquel je suis très attachée, Isha Mia, donc c'était en judéo-espagnol. Voilà, donc on a écouté ça, ça correspondait pas forcément au discours qui précédait puisqu'on parlait des passions, alors que le porpora qu'on a entendu au tout début, ben là était vraiment illustré très bien notre discographie, la discographie des passions. Donc je vais juste terminer avec l'orchestre voilà pour parler de la très belle discographie que nous avons, qui est saluée par la presse, et saluer tout le travail donc que fait Jean-Marc Andrieux, qui est le directeur musical, tout le travail de recherche, de restitution des partitions. Donc on a un répertoire très axé sur la musique française et sur le patrimoine oublié.
Et tu devais aussi nous dire, bon, tu viens d'expliquer pourquoi la musique n'a pas calé, pas tombé pile poil pour notre discours, les sujets que nous parlions. Mais c'est, comme je te disais, c'est les aléas de la transmission en direct, pas en direct, légèrement différé. Mais comme nous tenons pas à faire trop de montage, c'est tombé comme ça et la vie est comme ça. Mais puisqu'on parle de la vie, tu devais aussi nous dire pourquoi tu chantes.
Oui. Aurélie. Alors pourquoi chanter, hein? Première réponse, ça serait pour entrer en vibration, pour le bien-être que cela procure. Le bien-être à la fois par le son qui est émis et puis par la prononciation d'une ou l'autre langue, puisque comme je disais, j'adore les langues et rien que de les prononcer, ça me fait voyager. Ensuite, la deuxième raison, ça serait pour communiquer, exprimer une émotion réelle. Je suis donc, comme on a pu le voir, aussi très attachée à l'expression de l'émotion, que ce soit par le tableau de Frida Kahlo ou par le livre d'Ingrid Betancourt. Donc c'est très important pour moi d'exprimer une réalité, donc d'interpréter et de bien comprendre le texte quand on chante. Et ensuite, chanter, c'est aussi partager des moments uniques avec d'autres personnes. Donc ça, c'est dans le cadre, non pas du cours de chant où on est tout seul, mais dans le cadre des musiques d'ensemble et des projets de classe. Là, j'ai eu la chance d'interpréter le Stabat Mater de Pergolèse avec l'orchestre Divertimento. Donc on était deux solistes et donc c'est des moments magiques où toutes les notes, toute l'harmonie est enfin réunie. Et voilà. Et enfin, chanter, c'est se dépasser, c'est un apprentissage comme un autre. Ça pourrait être comme un sport, une langue. C'est pour moi rester dans une dynamique d'apprentissage et développer des compétences, la gestion du stress, encourager la curiosité, développer finalement la plasticité du cerveau, puisque et apprendre le dépassement de soi, voilà, puisque chanter, c'est sans arrêt se remettre en question et essayer d'arriver à faire mieux.
Merci beaucoup Aurélie Malka qui nous a accompagnés pour cette dernière émission de 2013. Je profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve après cette courte période de vacances ici à CFM Radio. Merci encore Florian pour la technique, merci Aurélie pour être là.
Merci Rosendo, merci à toute l'équipe de CFM.
Merci à tous, au revoir.
Et voilà, c'était les rendez-vous de Rosendo. Aujourd'hui avec Aurélie Malka, vous pourrez retrouver le podcast sur cfmradio.fr.
CFM.